Et puis, ouais, et puis le fait de construire à deux aussi, bah, des fois, tu as l'impression que tu vas moins vite parce que si tu vas tout seul, forcément, tu vas dans le chemin où tu veux. Mais ouais, des fois, tu te rends compte que le chemin où tu allais, il était juste pas bon, quoi. Donc, c'est bien d'échanger, c'est bien de consulter la personne avec laquelle tu es. C'est ouais, bien parfois de ne pas être anticipé aussi parce qu'une personne ne peut pas toujours avoir raison. Donc oui, j'ai appris énormément de choses à travers cette relation parce que je pense que le compagnonnage, c'est ça en fait. C'est vraiment d'évoluer au sein d'une équipe. Je pense que dès le début, on a compris qu'on ne serait jamais pareil.
Ah, le renoncement, le lâcher prise, on en revient toujours à la même chose,
donc,
c'est drôle.
À partir de là, on s'est dit de toute façon, lui il s'est dit c'est mort, je ne serai jamais comme elle et je ne veux pas. Et moi je me suis dit c'est mort, je ne serai jamais comme lui et je ne veux pas. Donc comment on va faire dans cette situation? Donc on s'est dit ok, quand même, on est des gens assez raisonnables. Donc, on va essayer de voir comment ça peut fonctionner malgré nos différences. Et ces différences, okay, elles apportent des choses. Elles apportent énormément de choses. Maintenant, moi, je pense plus que l'amour a plus trait à ta capacité à faire fi des imperfections et à toujours être là pour l'autre ou les autres.
Assalam alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage et que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. On dit que les opposés s'attirent, que l'on aime ce que l'on n'est pas. Et si je n'ai pas toujours été convaincue de cela, c'est pourtant bien le cas de Cyrine et Binta, un couple qui dure, malgré des différences, parfois sans commune mesure. Cette conversation, c'est un moment feel-good qui ne dit pas son nom. Parce que Binta a le don de prodiguer des conseils profonds, sensés, sur un ton agréablement léger, qu'elle sait nous rappeler que le mariage peut être simple lorsqu'on se décide à être plus humble, et que la tendresse irradie lorsqu'elle parle de son mari, lui qui aime si peu entendre parler de lui. Je crois beaucoup en l'apprentissage à travers le témoignage, et après avoir écouté Binta, vous comprendrez probablement pourquoi. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon invité, et vous souhaite, Inch'Allah, une merveilleuse écoute. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, en m'indiquant donc ton prénom, ton âge, ta situation maritale et depuis combien de temps tu es mariée, s'il te plaît. Je t'écoute.
Donc, bonjour, je m'appelle Binta, j'ai 36 ans. Je suis mariée depuis bientôt 13 ans. Ça fera 13 ans le 18 juillet. Donc voilà, je suis maman de deux enfants qui ont 8 et 5 ans.
D'accord. Et ton mari s'appelle ?
Il s'appelle Cyrine.
Ok, d'accord. La première chose, moi, à chaque fois qui me vient à l'esprit quand je te vois, c'est que tu définis très, très souvent ton couple comme l'alliance parfaite entre un esprit capitaliste assumé et un grand idéaliste. Est-ce que tu confirmes?
Je confirme à 2000%. À 2000%. En fait, on est un peu le yin et le yang, en fait. C'est vraiment des visions de la vie qui sont très différentes. Très 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 différente, et c'est marrant parce que du coup on s'est mariés, donc il y a un moment donné de toute façon on s'est accroché, donc on s'est dit en fait c'est pas problématique,
c'est ça, on va survivre malgré tout.
Ouais, c'est ça, et il se trouve que en fait on est toujours très différents, on continue d'évoluer chacun avec nos personnalités, mais bon, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc ça veut dire que voilà, c'est pas si grave d'avoir une dame capitaliste et un monsieur plutôt socialiste et pour le communisme, on va dire.
Ok. Justement, moi j'ai une question qui peut paraître hors sujet, mais je pense qu'elle est complètement liée à ce que tu nous dis. C'est ça devient d'où ce rapport à la réussite? Parce qu'en fait, souvent quand on a cette mentalité là ou ce rapport à la réussite, au capitalisme, il y a un rapport à la réussite qui est très ancré. Je voulais savoir d'où est-ce que ça te vient finalement.
Je réfléchis, je dirais. En fait, mes parents, ils nous ont toujours dit faut que vous bossiez dur parce que pour vous, ça va être dur. Faut que vous bossiez énormément parce que la vie vous fera pas de cadeaux. Enfin voilà, nous, on est des immigrés. Enfin vous êtes noirs. Faut savoir que vous êtes dans un pays qui vous aime pas forcément et qu'il faudra toujours mettre les bouchées doubles, quoi que vous fassiez. Et c'est vrai que moi, on parlait juste avant de ma date d'anniversaire, donc je suis taureau et moi, je crois vachement à ces trucs-là. Je pense que j'ai de toute façon un caractère qui aime les belles choses, qui aime le matériel, qui aime plein de choses de la vie. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours entendu depuis que je suis petite, voilà, il faut bosser, il faut beaucoup bosser si vous voulez vous en sortir. Et pour moi, derrière le si on veut s'en sortir, il y avait beaucoup, il faut réussir matériellement. Ce que mes parents n'ont pas forcément dit de façon explicite en plus d'ailleurs.
Ouais, c'est toi qui as fait le lien par la suite en fait.
Voilà, exactement. Et donc du coup, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que c'est très ancré en moi et que. Ouais, je suis une fonceuse, je veux toujours plus, je me fixe beaucoup d'objectifs très ambitieux. Et c'est vraiment ancré dans ma personnalité, ouais.
Ok. Et est-ce que tu avais quand même des ambitions maritales quand tu étais plus jeune ou ça faisait pas du tout partie
tellement
de la whole picture?
Tellement
c'est vrai
pas.
En fait, tu voulais pas te marier?
C'est pas que je voulais pas me marier. Mais moi, en fait, la première fois, je pense, où je me suis projetée dans le mariage, ou en tout cas, je commençais à m'imaginer mariée. En fait, j'ai jamais fait partie de ces filles qui, genre, quand elles avaient 12 ans ou quand elles avaient 15 ans, elles se disaient, ouais, le jour où je me marierai. C'était pas du tout dans...
Et la robe et le prince.
Non, pas du
et
tout.
Tout ça, quoi.
En fait, pas
okay.
du tout, pas du tout. Mais par okay. contre, je me rappelle quand quand je faisais mes études supérieures, j'avais une copine, donc qui s'appelait Danielle. Et on parlait de mariage, tout ça, et puis je lui dis, non, mais moi, pas avant 40 ans, là, il faut que j'ai mes diplômes, il faut que j'ai mon taf, il faut que j'ai mon appart, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Et peut-être quand j'aurais fait tout ça, à 40 ans, je me marierais.
Et, peut-être, sur un malentendu, ouais, on sait
ouais,
jamais.
Ouais, c'est ça. Donc, okay. Tu vois, c'était vraiment très, très loin dans les objectifs ou dans la vie, mais... Et du coup, non, je ne pensais pas que je me marierais aussitôt, en fait.
Ok. Et pourtant, tu as rencontré Cyrine.
Ouais.
Et il t'a dit, ton projet, c'est moi. Parce que c'est un peu ça, finalement, tu t'es quand même mariée à 23 ans.
Ouais, c'est
qui
ça.
Qui est dans nos sociétés occidentales, tout est relatif. Hein. Moi, je ne vais pas dire c'est jeune, parce que dans d'autres sociétés, 23 ans, c'est pas jeune, c'est dans la moyenne. Ouais. Mais dans nos sociétés occidentales, dans nos mentalités, 23 ans, c'est jeune. Donc,
ouais.
Déjà, tu t'es mariée à 23 ans, ce qui veut dire que potentiellement, tu l'as rencontré plus tôt.
Ouais, je l'ai rencontré quand j'avais 20 ans.
Quand tu avais 20 ans. Explique-nous un petit peu le cadre de la rencontre et comment il a réussi à mettre à mal un projet de vie qui était quand même extrêmement ancré chez toi, quoi. C'est fou.
Bon, on s'est rencontrés, j'avais 20 ans. On habitait dans la même résidence universitaire. Et en fait, mon mari, c'est un très gentil garçon. C'est vraiment le garçon, quand il t'aborde, forcément, tu lui parles. Forcément, tu peux lier d'amitié avec lui parce qu'il est vraiment super gentil, super poli. Donc, voilà, tu te dis pas que c'est un gars chelou qui vient pour t'embêter ou voilà. C'est vraiment un gars super gentil. Et okay. Du coup, on s'est lié d'amitié en fait. On s'est lié d'amitié et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Je pense qu'il y avait un peu de curiosité de sa part au début, genre... parce que lui, il est né, il a grandi au Sénégal. Donc... il y avait un peu de « Ah, mais du coup, t'as grandi en France, mais ça va, t'es poli quand même. Ah, mais t'as grandi en France, mais ça va, t'es gentil quand même. Ah, mais tu pries. Ah, mais tu fais le ramadan. Ah ouais, oui, oui.
Incroyable.
Oui, oui, tu sais, les gens qui ont grandi et qui sont nés en France, ils font tout ça aussi. Mm-hmm. Donc voilà, on a appris à se connaître et tout, mais vraiment, c'est de fil en aiguille, on a commencé à se fréquenter et c'est vraiment comme ça que je l'ai connu, quoi.
D'accord. J'ai une petite parenthèse parce que je trouve que c'est intéressant que tu précises et que tu expliques que en fait finalement les a priori ils sont des deux côtés parce que soyons très clairs nous aussi on aura des a priori sur des personnes sénégalaises qui sont nées au Sénégal ou quel que soit le pays d'origine, ça a pas grande importance, mais c'est aussi une manière de dire que on peut tout à fait avoir des a priori et puis les effacer, s'apprivoiser et aller bien au-delà, quoi. Et qu'est-ce qui t'a plu du coup chez lui? Au-delà du fait que ce soit un très très gentil garçon, qu'est-ce qui a vraiment fait que derrière tu t'es dit vraiment je vais faire table rase quand même tu viens de le dire, quoi, t'es très déterminé comme personne et tout ça, et il a franchement lui c'est vraiment c'est un bulldozer qui n'en a pas l'air, quoi, parce que il a franchement
c'est une force
moi quand
tranquille.
J'entends ça c'est vraiment la force tranquille et avec son air de ne pas y toucher, il a quand même franchement mis à mal des certitudes que tu avais quand même dans le bon sens du terme.
Je pense que je remets le point de la gentillesse qui pour moi est une qualité qui est extrêmement importante parce que j'ai un papa qui est extrêmement gentil. Et donc, c'est une qualité que, voilà, que tu connais, ouais. Donc, c'est une qualité que j'ai toujours valorisée, en fait. Pour moi, la gentillesse, c'est pas de la faiblesse, c'est pas, c'est une qualité qui est très importante. Donc, je pense que je mets ça là en numéro une. En numéro deux, je mettrais la piété, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très engagé dans sa foi et voilà, qui est très, très discret, très pudique. Donc, ouais, je me dirais la gentillesse. La gentillesse et du coup la foi, la pureté, quoi.
Ok. Mais c'est beau parce que quelque part j'ai l'impression que c'est, comment dire, je peux pas dire que c'est la, parce que t'es quelqu'un de très gentil aussi, donc on peut pas vraiment dire que c'est parce qu'il est opposé à toi que tu l'as choisi, mais j'ai l'impression que il a eu ce quelque chose quand même en plus que t'es parti chercher. Et que peut-être chez toi c'était, je sais pas, incomplet ou j'en sais rien, dis-moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de, c'est pas, il est pas complètement différent de toi parce que t'es quelqu'un de très gentil, tu as la piété dans le cœur aussi. Mais j'ai l'impression que lui, il t'a permis d'amener ça à un autre level.
Ouais, c'est un peu ça. En fait, je pense que il y a des choses, il y a des valeurs sur lesquelles on se rejoint à 2000%. C'est vrai qu'on est très différents en caractère, on a évolué et on a grandi, on a été éduqués dans des milieux qui sont très différents, mais par contre, il y a des trucs, par exemple, la famille, ça, c'est... Voilà, c'est... Moi, ma famille, c'est ma vie, lui, sa famille, c'est sa vie, et je pense que même si un jour, je lui dis, mais c'est moi ou ta famille, je pense qu'il va réfléchir, tu vois, donc je ne poserai jamais cette question.
Oui, c'est clair, parce que
je ne poserai jamais cette question. Et je pense que lui, il ne la posera jamais non plus, tu vois. Mmh. Et donc, ouais. dans la façon dont tu es engagé dans ta famille, dans la façon dont tu es avec tes frères, avec tes parents et tout ça, et même, dans la façon dont on éduque nos enfants, du coup, et quel sens on veut donner à notre famille et comment on fait évoluer notre famille, je pense que là-dessus, on est complètement alignés. Moi, je suis très... Je pense que il y a plein de choses sur lesquelles je suis très avant-gardiste, mais il y a beaucoup de choses aussi où je suis très ancrée dans les valeurs traditionnelles, mine de rien. Et là-dessus aussi, je pense qu'on se rejoint, complètement. Donc ça, je pense que ça, c'est ce qui va nous a vraiment assemblés. Et puis après, je pense que on a chacun fait évoluer l'autre. Du coup, si on va sur le côté, bah, qu'est-ce qui complète, qu'est-ce qui a fait que du coup il m'a complété ou que moi je l'ai complété. Je pense que moi, je l'ai beaucoup tiré sur. Faut qu'on fasse des projets, faut qu'on profite de la vie, tout ça. Mmh. Et lui, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté sur la partie religieuse, sur la partie foi. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Franchement, c'est pas le gars dans un débat, il aura toujours le dernier mot. C'est pas le gars qui va étaler sa science. Par contre, dans son comportement, dans sa façon d'être, dans son comportement, en fait, vraiment, c'est vraiment du lead by example. Dans ce qu'il est, il me montre vraiment des valeurs, il illustre des choses. Puis de temps en temps, quand je lui demande, du coup, j'ai des réponses à des questions et je me dis, ah ouais, mais gars, tu connais plein de trucs, en fait. Tu connais plein de trucs, pourquoi tu me dis pas tous ces trucs? Pourquoi tu me dis pas tous ces trucs, tu vois? Donc voilà, je pense que c'est plus comme ça qu'on se complète, ouais.
Ok, d'accord. Bon, pour ceux qui sont pas anglophones, un lead by example, c'est le fait de l'idée, de diriger par l'exemple, de par vraiment son bon comportement. Mais c'est beau parce que, enfin, moi, je dis toujours que tout est religion quelque part. Et là, moi, ce que j'entends quand tu parles, c'est qu'en fait, ensemble, vous trouvez le juste milieu. Et en fait, l'islam, ce n'est que ça. C'est à chaque fois voguer vers le juste milieu, prendre sa part dans cette vie ici-bas, dans ce qu'on appelle la dunya, et en même temps toujours, toujours garder un œil sur l'objectif final, qui est quand même d'atteindre les jardins du paradis de notre Seigneur. Et j'ai l'impression que vous deux, vous complétez et vous arrivez à essayer de voguer vers ce juste milieu qui est si difficile à atteindre, particulièrement dans notre époque.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est un travail de tous les jours. Hein.
Bon, ouais, c'est sûr, on va en reparler un peu plus tard. Juste avant, j'avais une question justement sur le fait que Cyrine soit née au Sénégal et toi en France. Est-ce que cette différence, ça a fait partie des grandes différences pour toi, et est-ce que ça aurait pu être un frein à votre union ou pas du tout?
Non, je pense pas que ça aurait pu être un frein. Je pense pas que ça a été un frein. Je pense que vraiment les incompréhensions qu'on peut avoir l'un de l'autre, elles sont plus liées à nos personnalités qu'au fait que l'un soit né là et l'autre soit né là, en fait. Okay. Ça vraiment, je le perçois moins. Après, évidemment, Il y a une façon de parler en français, il y a une façon de parler en wolof, les tonalités sont pas les mêmes, les tournures ne sont pas les mêmes. Donc forcément, des fois, quand tu dis des trucs en français, ça passe. Quand tu les fais en wolof, ça fait un peu abrupt. Donc tu peux sentir que soit la phrase, elle n'était pas appropriée, soit elle n'était pas adaptée, mais ça n'a jamais été vraiment un vrai... Ça n'a jamais été un handicap, en fait. Je pense vraiment que du coup, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément bien, c'est plutôt lié vraiment à des personnalités qui sont très différentes.
D'accord, vos différences, elles sont vraiment plutôt là.
Ouais.
Et donc, du coup, tu finis par te marier à 23 ans. Comment est-ce que à l'époque tu vis ce changement de plan? Tu le vis bien? Est-ce que vraiment il y a une partie de toi qui te dit oh là là, je dois vraiment laisser un. Enfin, comment tu le vis au moment même où tu es mariée? Je veux dire, est-ce que ça a eu un impact dans ton mariage, ce gros changement de plan, ou pas du tout?
En fait, c'est très bizarre parce que entre le moment où on a dit on va se marier et on s'est marié. Enfin, honnêtement, là, maintenant, j'ai l'impression qu'il s'est passé. En fait, on a claqué des doigts, j'étais mariée. Et vraiment, quand je me suis mariée, en fait, j'ai eu cette sensation de mais putain, je suis mariée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mariée.
On t'a réveillée, on t'a dit Binta, tu es mariée. Ah bon?
Non, mais presque, okay. C'est ça, tu vois. Okay. Et en fait, je pense que pendant tout le process de la préparation du mariage, des présentations des familles, tout ça, mon plan, en fait, il a complètement été en background. En fait, il n'y a aucun moment où je me suis dit, mais attends, c'était pas ça mon plan. Mais parce que aussi, nous, dans la façon dont on s'est construit tous les deux, parce qu'on s'est tous les deux mariés jeunes, hein, mine de rien. Moi, j'avais, enfin, voilà, il a 5 ans de plus que moi.
5 ans de plus, c'est ça?
5 ans, ouais.
Ok.
Ouais, mine de rien, en fait, on se mariait, donc c'était une étape de notre vie, mais en fait, tous les deux, on était dans nos évolutions professionnelles, on devait, voilà, moi, j'allais commencer tout juste à travailler, lui, il travaillait déjà, on commençait à faire des projets, donc, en fait, comme les projets suivaient leur cours à côté, du coup, j'ai pas eu le sentiment que ça repoussait tant que ça mes ambitions ou mes projets, en fait, c'est juste que, voilà, j'ai mis un peu certains trucs en background, et après, hop, je me suis réveillée, j'étais mariée.
Mais c'est génial parce que c'est aussi la. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, comme je l'entends, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de. Quand tu lâches prise sur sur certaines choses, moi j'ai vraiment le sentiment que qu'Allah te récompense de ça. Quand tu lâches prise, surtout sur des choses où qui sont importantes quand même, tu vois, de dire j'accepte de me marier, j'accepte de laisser des choses qui à la base me tenaient beaucoup à cœur. J'ai vraiment le sentiment qu'on te récompense en facilitant tout le reste.
Ouais.
C'est pour ça que t'as vécu, non?
Ouais, je pense que, et ça, je pense que c'est encore valable, enfin, c'est toujours valable maintenant, des fois, faut juste lâcher prise, quoi. Mais bon, ça s'apprend avec l'expérience et le temps,
En tout cas,
pour moi, c'est absolument pas inné, quoi.
Oui, franchement, je pense que pour beaucoup de femmes, hein, ça l'est pas. Et là, pour le coup, enfin, moi, c'est peut-être parce que j'ai plus d'amis femmes, je sais pas, mais j'ai quand même le sentiment que chez les femmes, le lâcher prise, c'est une catastrophe, quoi.
Ouais,
c'est un combat, c'est un dread, mais de tous les jours.
Ouais,
parce que vraiment, on peut être très control freak, on a vraiment l'impression de pas contrôler la situation, c'est pas se contrôler soi, presque pour nous, c'est dur.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Et est-ce que avec le temps, ou même au moment où tu t'es mariée, est-ce que tu as vu finalement les bienfaits de se marier jeune? Parce qu'en islam, Allah nous enjoint à nous marier tôt, à nous marier jeune. Est-ce que toi, tu as vu les bienfaits de ce mariage à 23 ans finalement?
Je pense que je ne peux voir que les bienfaits dans le sens où je me suis aussi construite dans le mariage. En fait, à 23 ans, tu es vraiment jeune. Pour le coup, là, quand je repense à comment j'étais à 23 ans, quelles étaient mes croyances? Et je pense que même là, à 36 ans, je suis pas non plus une vieille de la vieille. Donc, dans 10 ans, je me dirais encore.
Qu'est-ce que j'étais 6 ans.
Exactement, okay. Exactement. Donc, je me suis construite dans ce mariage et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits parce qu'en fait, par la cohabitation, on apprend beaucoup de choses. On apprend à être plus patient, on apprend à faire des concessions. Moi, la patience, c'est mon. L'impatience, c'est mon défaut numéro un. Vraiment, je suis quelqu'un d'extrêmement impatiente et dans tous les domaines de la vie. Et lui, il est quelqu'un d'extrêmement patient, donc c'est un autre extrême. J'ai dû apprendre à être beaucoup plus patiente. Et ça s'est encore accentué avec la maternité où, quand tu as des enfants, si tu connais pas la patience, tu vas comprendre. Tu vas apprendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis le fait de construire à deux aussi, des fois, tu as l'impression que tu vas moins vite parce que si tu vas tout seul, forcément, tu vas dans le chemin où tu veux. Mais ouais. Des fois, tu te rends compte que le chemin où tu allais, il était juste pas bon, quoi. Donc, c'est bien d'échanger, c'est bien de consulter la personne avec laquelle tu es. C'est bien parfois de pas être entêté aussi, parce qu'une personne ne peut pas toujours avoir raison. Donc oui, j'ai appris énormément de choses à travers cette relation, parce que je pense que le compagnonnage, c'est ça, en fait. C'est vraiment d'évoluer au sein d'une équipe, quoi.
C'est beau de le voir comme ça, parce que pour les personnes qui sont pas mariées, parfois on a du mal à comprendre quand les personnes qui sont mariées disent je me suis construit avec la personne. Moi souvent ça me parlait pas en fait, parce que moi du coup je me construis plutôt seule, même si on n'est jamais vraiment seule, on est d'accord, mais j'avais du mal à comprendre par quoi ça passait cette construction.
En fait, tu vois, toi, par exemple, tu dis je me construis seule, mais après, tu dis pas vraiment seule. Parce que je pense que tu as des amis, tu as des parents, tu as des cousins, tu as des grandes sœurs.
En fait,
tu as ta foi. Et en tout cas, tu as un écosystème qui te permet, du coup, de t'aider dans tes choix, de te soutenir si besoin, de vivre les joies avec toi et tout ça. Et en fait, avec le mariage, c'est juste la même chose. C'est juste que ton écosystème est le premier rempart de ton écosystème, le premier cercle de ton écosystème, c'est ton époux, en fait. Parce que c'est la personne avec laquelle tu es tous les jours, vous dormez ensemble, vous vivez ensemble, vous prenez des décisions ensemble. Et donc, je pense qu'il y a du respect dans cette relation-là. Forcément, vous allez évoluer tous les deux. Forcément, toi, tu es obligé de faire un pas vers lui. Lui, il est obligé de faire un pas vers toi. Parce que personne ne peut rester sur ses positions. Et du coup, ça vous fait forcément évoluer tous les deux, en fait.
Ok, d'accord. Je fais une petite ellipse par rapport au thème de ce jour, qui est plutôt le fait que les opposés s'attirent. Tu sais, tu viens de dire quand tu es marié avec une personne, tu es avec cette personne, tu dors avec cette personne, et il y a des nouveaux modèles de couple où les personnes sont un peu dans le chacun chez soi. Est-ce que tu penses que tu aurais évolué de la même manière si tu n'avais pas vécu avec Cyrine, justement et si tu n'avais pas vécu avec Cyrine tous les jours, ce truc de de toute façon, je ne peux pas aller ailleurs que la croix, parce que même quand ça ne va pas, je reste là. Est-ce que, quelque part, la vie de couple, physiquement, être en couple, ensemble, est-ce que pour toi, ça a eu un impact sur la réussite de votre couple?
Ça change tout. Ça change tout, parce que je pense que c'est dans le quotidien, ensemble, qu'on a les difficultés et qu'on vit les joies. Je pense qu'en fait, le fait de vivre ensemble au quotidien crée beaucoup de difficultés. Ça crée des difficultés, mais c'est le fait de surmonter ces difficultés-là, je pense, qui renforce le couple, et ça, j'y crois vraiment. Moi, vraiment, je suis une grande fan des nouveaux modèles, les femmes qui habitent dans un appart, le mari dans notre appart. J'en ai parlé d'ailleurs une fois, il m'a dit, mais c'est quoi ça?
Mais oublie.
Tu vois, mais j'étais même pas dans la proposition, j'étais juste dans, regarde, il y a ça qui se fait, et il m'a dit, mais... Mais je trouve ça super cool. Mais je sais pas si c'est bon pour tous les couples. Je sais pas si c'est donné à tous les schémas de couple. Et je sais pas si c'est bien pour des couples jeunes. Je pense vraiment la vie à deux, c'est très dur. La vie à deux, c'est très dur, parce que quand tu vis avec quelqu'un, des fois, t'as besoin d'être seul, ou bien elle fait des trucs qui te tapent sur le système et tout ça. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, mais c'est juste que je pense que quand tu dépasses ces trucs que tu vois comme des problèmes, je pense que t'as beaucoup progressé. Vous avez collectivement beaucoup progressé.
Ok, je te remercie d'avoir répondu à cette question, parce que vraiment elle m'est venue en discutant avec toi, et on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. D'ailleurs, c'est ce que t'as très bien fait, tu vois. Mais je trouvais intéressant d'avoir justement le point de vue d'une personne qui elle a vécu et vit toujours avec son époux depuis quelques années, mais qui partage aussi ce quotidien. Si on revient à vos différences, est-ce que tu peux un peu nous faire pas l'inventaire, mais est-ce que tu peux un peu revenir concrètement sur les différences notoires entre Cyrine et toi, en dehors d'effectivement cette vision de la réussite, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des différences qui sont si grandes qu'elles auraient pu mettre à mal ou elles auraient pu mettre en péril votre union, votre couple?
En fait, ce qui est très intéressant, c'est la fin de la question. Parce que je m'interroge sur est-ce qu'il y a vraiment des différences qui mettent à mal le... En fait, je sais pas, qui mettent à mal le couple. Je suis en train de réfléchir.
Dans ton couple ou dans les couples en général?
Dans les couples en général.
D'accord.
Pour la question pour les couples en général, on reviendra plus tard. Je vais répondre à ta question.
Ok.
Sur les différences. J'ai dit tout à l'heure, moi, je suis extrêmement impatiente. Je suis très patient. C'est vraiment quelqu'un de
oui.
très patient.
Ouais.
Moi, j'ai tout le temps besoin de bouger. Vraiment, c'est quelque chose même de physique.
C'est, pour c'est ça physique, que, ça,
ouais,
en
je fais vraiment, je fais du sport, je fais plein de trucs. J'essaie toujours de m'occuper, ce qui, je pense, c'est pas forcément toujours bien, mais lui, c'est quelqu'un de très posé, très ancré, très calme, et qui a pas ce besoin de toujours être hyper, hyper actif. C'est quelqu'un de très calme et de très réfléchi. Je pense que je suis beaucoup plus, j'hésitais entre spontané et dans la précipitation. Je ne sais pas trop lequel utiliser.
C'est un beau mélange des deux. Ça dépend des jours, peut-être.
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça dépend des jours.
Bien sûr, c'est normal.
C'est quelqu'un de très calme et de très réfléchi. Moi, je pense que il y a plein de trucs sur lesquels je réfléchis peut-être un peu moins. Quoi d'autre?
Mais pardonne-moi de t'interrompre, mais justement, rien que ça, là, rien que ce que tu nous dis, moi, je suis désolée, mais je vois des personnes autour de moi pour qui c'est un drame. Parce que toi, tu me dis, oh, je sais pas si, mais en vrai, je pense que, moi, en tout cas, je l'ai vu autour de moi, ce genre de différence. Parfois, c'est difficile dans un couple, en fait, de faire cohabiter deux personnalités si différentes. Moi, j'ai l'impression, mais arrête-moi si je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que ce qui fait que vous deux, vous liez, c'est que j'ai l'impression, hein, c'est le respect que vous avez pour la différence de l'autre. C'est ça, c'est le fait de laisser la place à la différence de l'autre et de pas se dire t'es comme ça, c'est un problème.
Ouais, exactement, exactement. Je pense qu'il y a effectivement le respect de la différence de l'autre. Vraiment que je pense que dès le début on a compris qu'on serait jamais pareil.
Ah, le renoncement, le lâcher prise, on en revient toujours à la même chose.
Donc,
c'est drôle.
À partir de là, on s'est dit, de toute façon, lui il s'est dit c'est mort, je serai jamais comme elle et je veux pas. Et moi je me suis dit c'est mort, je serai jamais comme lui et je veux pas. Donc comment on va faire dans cette situation? Donc on s'est dit ok. Quand même, on est des gens assez raisonnables. Donc, on va essayer de voir comment ça peut fonctionner malgré nos différences. Et ces différences, elles apportent des choses. Elles apportent énormément de choses. Et puis après, je pense que ce qu'on a aussi beaucoup fait et qu'on continue de faire tous les jours, c'est de se mettre à la place de l'autre. Moi, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai une vision de la vie, des sujets, même des trucs d'actualité. Hein, je vais dire, non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, ça, c'est incroyable et tout. Et en fait, lui, il va me dire, mais pourquoi tu dis que c'est incroyable? Et je vais dire, bah, parce que tu te rends pas compte ce qu'elle a dit, la personne. Il me dit, oui, mais la personne, elle a dit ça. Mais moi, quand elle dit ça, je l'entends comme ça. Et moi, je vais dire, ah ouais, c'est vrai, moi, je l'avais pas entendu comme ça du tout. Et donc, c'est vrai que de se mettre toujours à la place de l'autre et de confronter nos points de vue, franchement, à chaque fois, hein, moi, donc je disais voilà je peux être trop spontanée ou surréagir, bah c'est typiquement ça. À chaque fois je vais avoir une surréaction, il va me dire mais en fait je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Je vais dire mais parce que c'est évident, c'est ça et ça. Il dit bah c'est évident pour toi, mais déjà pour moi ça l'est pas, parce que moi je voyais le truc plutôt comme ça. Et là je me dis ah ouais, c'est vrai qu'on aurait pu le voir comme ça en fait. Donc ouais, on se met à la place de l'autre, on essaie de comprendre le raisonnement de l'autre, et du coup ça fait que ok, on peut comprendre pourquoi telle action, pourquoi telle façon de réagir, parce qu'on se dit en fait c'est juste que moi dans mon schéma c'est pas comme ça, mais dans le sien ou dans le mien c'était comme ça, et donc après du coup on avance quoi.
Ah moi je trouve ça vraiment trop trop beau, parce que c'est vraiment c'est accepter que son point de vue n'est pas le seul, n'est pas le meilleur. Et moi, en toute transparence et dans un essai d'humilité de ma part, je le dis franchement, c'est quelque chose que moi j'ai dû apprendre à faire, parce que quand t'as une personnalité un peu forte, quand t'as des avis un peu forts, t'as du mal en fait à te dire que la vérité n'est pas ta vérité.
Exactement.
Ta vérité c'est différent de la vérité.
Exactement.
Et c'est bizarre en fait de dire ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités. Pour quelqu'un d'un peu binaire comme moi, c'est dur à admettre. C'est
mais
super dur à entendre.
Je comprends tout à fait ton point. Et moi aussi, c'était dur pour moi à admettre. Mais je pense que ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est pas une question de qui a raison et qui a tort. Je pense que ce qui est important, c'est d'accepter que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, et ça, il me le dit tout le temps, en fait, il te remet pas en cause toi. Il dit pas que toi, t'es naze, que tu comprends rien, que c'est complètement absurde ce que tu dis. C'est juste que ce que tu dis là, pour lui, ne fait pas sens, en fait. Et ça n'enlève rien à ta personne. Moi, c'est vrai qu'avant, quand tu n'étais pas d'accord avec moi, j'étais fâchée, quoi. Je le boudais, quoi. Mais en fait, d'où tu n'es pas d'accord avec moi, quoi. C'est tellement limpide ce que je te dis, d'où tu n'es pas d'accord avec moi. Et en fait, à chaque fois, il me disait, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi, quand je ne suis pas d'accord avec toi, tu boudes. En fait, qu'est-ce qui fait que je dois toujours être d'accord avec toi? Qu'est-ce qui fait? Il n'y a rien qui fait que je dois toujours être d'accord avec toi. Bah non,
j'adore.
Voilà, donc en fait, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Oui,
bah, tu as dit comme ça, oui, clairement.
Et puis, tu restes quand même ma femme, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Oui.
Exact.
Donc en fait, pourquoi tu boudes? Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai appris à me dire, en fait, il n'est pas d'accord avec moi, il a un autre avis, mais ça ne change rien à l'estime qu'il peut avoir pour moi. Et c'est vrai que moi, j'avais ce côté où, en fait, il faut que j'ai raison, parce qu'en fait, avoir raison, ça a de la valeur. Alors qu'avoir raison, déjà, ça ne veut rien dire et ça n'a aucune valeur. C'est juste une vision de la situation, ouais. comme tu disais, c'est ta vérité ou c'est ma vérité. Mais et c'est comme quand on dit, tu vois, quand on te fait un reproche, bah, ou bien au travail plutôt, quand tu es au travail, que tu travailles dans une relation client-fournisseur et que le client, il te dit un truc, bah, ne le prends pas personnellement. C'est pas toi contre toi, Binta, c'est contre toi ce que tu représentes, tu vois. Et il faut savoir détacher aussi ce que tu reçois de, est-ce que c'est ta personne qu'on attaque ou c'est juste la question, le raisonnement, l'entreprise que tu représentes.
Bah en fait, bah ça, je trouve que tu vois typiquement, t'as pris l'exemple du travail. C'est un bel exemple parce que pour quelqu'un comme moi, moi aujourd'hui, j'ai appris à me détacher du travail. Je ne suis pas mon travail. Donc en fait, effectivement, moi, si demain tu m'interpelles sur des décisions que j'ai prises dans le cadre du travail, je serai un peu plus filtrée, pas complètement. On va quand même se dire les choses, mais je serai un peu plus filtrée. Dans le mariage, c'est beaucoup toi quand même, tu vois. Donc,
C'est beaucoup toi, mais après des fois les discussions, tu vois, elles sont souvent sur des trucs banals et des fois c'est beaucoup toi et c'est aussi juste que si c'est pour le coup si c'est vraiment toi, ça veut juste te dire qu'il faut que tu bouges un peu sur ta position quoi. T'es pas forcément au bon endroit.
Ouais non mais c'est très très juste hein, mais je trouve que c'est vraiment c'est bien de repréciser tout ça parce que bon moi en tout cas c'était ma position initiale, elle a un peu évolué mais c'est ma position initiale. Donc forcément, tu sais des fois quand tu te sens un peu mal ou dans une envie de te protéger, hop, tu reprends ta position initiale parce que celle que tu connais, tu vois, c'est ta posture c'est ta posture qui est devenue malheureusement naturelle mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire que lui, moi enfin j'ai l'impression que vraiment l'une des clés du mariage c'est de se dire la vérité là, ce truc de moi je veux avoir raison, faut déposer ça quoi.
Ouais, ça marche pas. Ça marche pas parce que en fait, je pense vraiment que et peu importe la relation, ça ne peut pas fonctionner si une personne essaie d'avoir l'ascendant sur l'autre. Il faut vraiment que l'autre accepte que son conjoint ou sa conjointe ait une vision différente. Mmh. Mais s'il y en a un qui essaie de dominer l'autre. Et je pense que essayer d'imposer son avis, c'est aussi essayer de dominer l'autre, ça peut pas marcher.
C'est vrai. Très juste. Très, 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 très juste. Et encore une fois, on en revient toujours à la foi. Dieu nous demande, de contrôler notre nafs, notre ego. Ça vient de là aussi, parce que quand on le contrôle pas, ben, on arrive à ce genre de posture, en fait, ce genre de convictions qui ne sont pas du tout des réalités avérées, loin de là, quoi. Et, pour revenir justement à vos différences, est-ce que tu nous as dit que quelque part maintenant vous vous complétez à travers vos différences? Tu vois, toi tu vas lui donner de l'énergie là où lui il est très très calme, il va te donner de l'apaisement où toi t'en as besoin, il va te donner un idéalisme dans un esprit plus capitaliste, etc. et vice versa de ce que je comprends. Est-ce que cette complétude elle s'est faite naturellement ou est-ce que ça s'est fait suite à des accrochages, parce qu'aujourd'hui ça fait 13 ans, donc c'est facile un peu de nous dire oh oui c'est facile, tu vois pas où est le problème.
Je pense que ça ne fait que 13 ans justement, c'est bien ça le sujet. Je pense que la route est encore très 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 longue. Hein. La route est vraiment très très longue et ça s'est pas fait comme ça. Je pense pas que ça puisse vraiment se faire naturellement, parce que je pense que quand t'as des personnalités qui sont différentes, ça peut pas se faire naturellement. Même je pense quand t'as des personnalités qui sont proches. Parce que ce que je disais, je pense que dans le quotidien, il y a des difficultés parce que vous avez des choses très concrètes à faire quoi. C'est genre faire les courses, déposer les enfants à l'école, c'est vider la machine à laver, tu vois, c'est des trucs très concrets qui font que de toute façon personnalité ou pas personnalité, il va falloir se mettre d'accord quoi,
tu vois. Ouais, complètement, c'est vrai. Oui,
il va falloir se mettre d'accord, donc non, c'était pas simple, mais par contre en fait, lui, il a toujours eu la posture. Moi, j'avoue, je suis quelqu'un qui boude beaucoup. Comme mon frère avait dit, nous, avec notre nom de famille, on est des gens qui boudons. C'est dans notre sang, tu vois. C'est des gens, on boude. Ouais, grave. Mais lui, il a toujours eu vraiment la posture de dire, en gros, mais en fait, quand il me voit bouder, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je suis boude? Je dis, bah, ça va pas. Ok, ça va pas. Mais pourquoi toi, tu l'as pris comme ça, etc. Donc, j'allais dire, on communique vachement. Je sais pas si c'est le bon mot parce que c'est un peu. Oui, mais en fait, je trouve que en fait, t'entends beaucoup parler de oui dans les relations, qu'elles soient parentales ou amicales ou amoureuses, faut communiquer. Je pense pas qu'on soit les rois de la communication, lui et moi, parce que je pense que la communication dans un mariage, elle peut être compliquée parce qu'elle est toujours chargée émotionnellement. Et je pense que ce qui rend difficile la communication, c'est les émotions en fait.
C'est la charge émotionnelle qu'on y met.
Ouais, exactement. C'est les émotions qu'on y met. Mais on a appris, je pense, à se parler et à se dire, bah ça, j'ai pas aimé, ou ça, franchement, je me suis pas sentie bien, je me suis sentie vexée, je comprends pas pourquoi tu m'as dit ça. On a appris à le faire. Je pense que c'est ce qui n'était pas juste naturel ni pour l'un ni pour l'autre, en fait.
Ok. Ouais. Bah c'est vrai que tu vois, au fil de notre échange et là, notamment les dernières minutes, la communication s'est un peu révélée toute seule, quoi. Mais enfin, en tout cas, l'importance de la communication. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que il n'y a pas besoin d'être un as de la communication pour avoir un couple parfait. Mais par contre, il faut se donner les moyens et aller au-delà de ce qu'on est. Mmh. La communication, c'est aussi ça, en fait, quelque part. C'est aller au-delà de ce qu'on est.
Exactement. Ouais, je suis d'accord.
Pour pouvoir résoudre le fait, il faut être solution oriented, en fait.
Ouais.
Faut
aller exactement. En fait, faut essayer de sortir de la problématique, en fait, quelle qu'elle soit. Mmh. Et c'est essayer effectivement de trouver une solution et ne pas camper sur ses positions, en fait. C'est essayer de faire en sorte qu'on débloque la situation telle qu'elle est. Ouais, c'est ça.
Mmh. Ok. Si on revient sur l'un des aspects de la personnalité de Cyrine, et en plus tu l'as précisé dès le départ, il a une spiritualité, il a une religiosité qui est centrale dans sa vie, de ce que je comprends. Comment est-ce que ça a influencé votre famille, donc tes enfants et toi, au mieux? Comment cette force-là qu'il a s'est redescendue un petit peu dans votre famille, et en quoi c'est un bienfait pour vous finalement?
Alors, si tu me permets, je vais répondre à cette question que pour moi.
Bien sûr.
Parce que je pense que déjà, il va... Déjà, je pense que... Quand il va écouter le podcast, il va me dire, mais pourquoi t'as parlé de ça de moi? Parce que j'ai dit au début...
On est désolé, Cyrine.
J'ai dit que c'était quelqu'un de très pudique. Donc, j'ai plutôt dit l'impact que ça a eu pour moi.
D'accord.
Ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé à évoluer, en fait. Donc, je disais, effectivement, le fait de le voir pratiquer d'une certaine façon, d'être d'une certaine façon, sa façon d'être, ça m'a donné, ça m'a donné des exemples, ça m'a fait comprendre des choses. Et puis, c'est marrant, c'est comme les enfants, en fait, quand tu vois quelqu'un qui est appliqué dans ce qu'il fait, dans sa pratique et tout, bah, tu dis, en plus, moi, avec mon esprit de compétition, je vais pas être la dernière de la classe. C'est mort, en
tu
fait.
Tu me laisses pas derrière.
Voilà. Donc, il faut que je progresse. Okay. Donc, je commence à évoluer, à faire des nouvelles choses, à apprendre, à lui poser des questions et tout ça. Mm-hmm. Et ça, vraiment, je pense que c'est lui, hein. Je pense que c'est lui qui m'a beaucoup, après Dieu, hein, qui m'a vraiment apporté ça, mais.
Bien sûr. C'est un biais, en fait.
Ouais, exactement. Mais je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré sur ça, ouais.
Bon, on s'excuse, hein, Cyrine, si on te met mal à l'aise. Tu feras avance, du coup, sur cette partie.
Oh my God.
Mais je voulais en parler, vraiment pas pour le mettre mal à l'aise, mais parce que, en fait, il faut se dire aussi une réalité, c'est que dans les couples, le cheminement spirituel, il est quand même rarement d'équerre. C'est-à-dire que vous avancez rarement, tu vois, c'est pas un pied après l'autre, ou même sur la même, c'est pas des skis, quoi. C'est pas, hop, on est tous les deux pareils et on avance tout le temps pareil. Et moi, je trouvais quand même que c'était intéressant dans le cadre d'un podcast qui aborde la question des couples de confession musulmane, de voir un peu la place qu'a la religiosité, puis comment on fait dans un couple où justement, la pratique religieuse, elle est parfois, elle est pas au diapason tout le temps, parce que c'est la réalité de beaucoup de couples, en fait.
Bah moi vraiment, alhamdoulilah, hein, j'ai suivi le cap.
Bon, alhamdoulilah, c'est pour le mieux. Et dans le cadre de l'éducation des enfants, est-ce que ces différences-là, elles ont un impact ou elles jouent? Et comment vous faites pour mutualiser vos différences pour élever au mieux vos deux petits garçons?
Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a deux garçons, un qui a ma personnalité, un qui a la personnalité de papa.
Ah, d'accord. Ils sont fusionnés les deux? Non.
Ouais, non, c'est hyper drôle parce que, bon, après, des fois, il y a des trucs qui, voilà, un peu d'un côté de l'autre, mais il y a des traits marquants qui sont plus chez l'un que chez l'autre, donc ça, c'est assez drôle.
Comme lesquels? Tu peux nous en dire un peu plus?
Bah, le côté très extraverti, le côté j'aime la vie, j'aime être sociable, machin et tout, ça, c'est que d'un côté du grand. Le côté, je suis très méticuleuse, je suis très appliquée, je suis passionnée par la nature. J'aime les choses qui dépassent les trucs un peu matériels. Ça, c'est le plus petit. C'est très marrant, en fait. Vraiment des...
Ah ouais.
Ouais, des, vraiment des trucs qui...
C'est beau.
Dans le caractère, c'est très drôle. Après, comment on gère les différences avec les enfants Je pense que ça nous permet du coup de gérer de se répartir les rôles plutôt dans le sens. Moi, il y a des trucs que j'adore faire. Moi, j'adore les amener jouer dehors au parc. J'adore faire du sport avec eux. J'adore faire la cuisine avec eux. J'adore lire avec eux. Mais par contre, franchement, moi, les délires de faire des activités manuelles créatives, monter des do it yourself et tout ça, c'est pas mon délire parce que moi, j'ai pas la patience de faire des trucs comme ça. Par contre, lui,
on a bien compris.
Voilà. Mais ça, lui, il fait ça. Mais franchement, j'ai une de mes meilleures amies qui a abonné les enfants à un magazine qui est vraiment top. En fait, chaque mois, il t'envoie. Ouais. Une activité à faire à la main, donc c'est des activités manuelles, donc ça peut te prendre une bonne après-midi, tu vois. Ouais. En général, on fait ça le samedi après-midi, et puis t'as plusieurs activités comme ça pour s'occuper pendant le mois, et tu vas pas être devant les écrans. Mais ouais. C'est lui qui fait ça à chaque fois, ça c'est son truc, tu vois. C'est genre quand le Pandacras il arrive, ah, les enfants ils vont voir.
Ce que
papa.
J'allais dire, c'est Pandacras,
ouais,
on est d'accord.
Ouais, okay. C'est ça. C'est, okay, ouais, y a Pandacras pour le petit et l'atelier imaginaire pour le grand. C'est okay. Vraiment super bien. Et donc, du coup, voilà, ça c'est pour papa. Moi, c'est pas des trucs que je fais. On a chacun notre truc. Donc en fait, du coup, comme on a chacun nos activités un petit peu favorites, chacun ouais. fait ses trucs un petit peu favoris. Uh-huh. Après, je pense que dans nos, je pense que il y a des trucs sur lesquels lui, il est beaucoup plus ferme que moi. Et je sais pas si c'est une question de caractère ou si c'est une question que moi, je suis maman et que donc du coup, j'ai beaucoup de mal des fois à être ferme ou à, souvent je lâche du laisse quoi. Je suis ferme et puis ouais. après la minute d'après, c'est bon, c'est fini, on a oublié. Laisse tomber, c'est pas grave. Et donc, lui, il me dit, mais en fait, si tu fais comme ça, ils vont pas comprendre, en fait. Ils vont jamais comprendre. Donc, voilà, on a des activités différentes, rôles un petit peu différents. Ouais, c'est tout, je dirais. Je pense pas à autre chose. Là,
non, mais ça. C'est bien. Mmh. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on en revient toujours à cette idée de respecter la différence de l'autre. Et plutôt que de chercher à modifier l'autre, c'est de dire comment on fait pour se compléter, du coup. Et que ouais, toi, t'es ça. Comme ça, t'aimes ça. Eh ben, très bien, tu vas plutôt faire ça. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de... Vous êtes conciliant, en fait, sur vos différences, en fait. Mm. Et du coup, avec le recul, est-ce que tu trouves que c'est... plus simple finalement, enfin, parce que moi à t'entendre à la fin de cette interview je vais me dire mais moi ils me font mon opposé, c'est ça la vie hein. Mais enfin, est-ce que finalement j'ai l'impression que tu regrettes pas du tout finalement d'être en union avec d'être mariée avec quelqu'un qui est très différent de toi, est-ce que t'aurais aimé finalement être avec quelqu'un qui a la même énergie que toi avec le recul?
Non, je pense que ça aurait été fatigant, je pense que ça aurait été dangereux. Et quand j'utilise le terme dangereux, c'est vraiment parce que, enfin, moi, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels, en fait, je fais sans réfléchir, vraiment. Et ça, c'est pas bien non plus de faire des choses sans réfléchir. Tu peux te mettre dans des situations, je fais pas des trucs super graves, mais tu te mets dans des situations qui, du coup, te créent des problématiques derrière que t'aurais pas eu si t'avais juste réfléchi 5 secondes avant de faire ton truc, tu vois.
Puis 5 secondes, c'est pas ouf en soi.
Ouais,
c'est pas énorme.
Moi, je suis prête à m'engager parce que je prends des décisions très très vite, là où lui, là, il se dit non, il faut que je pèse le pour, les contre et tout. Et ça, en fait, ça a vachement de valeur. Alors que pour moi, avant, c'était vraiment, en fait, je comprends pas comment on peut pas prendre une décision en moins d'une minute, tu vois. Et là, je me rends compte que non, tu as parfaitement le droit de prendre ton temps. Et en fait, c'est mieux de prendre son temps, d'ailleurs. C'est vraiment beaucoup mieux. Okay.
Et j'ai une dernière question concernant votre union à tous les deux. Je me souviens que quand on a préparé la première fois, ou en tout cas quand on a discuté la première fois de l'éventualité de ce podcast, tu me disais, Cyrine, il m'a appris ce que c'est que le mariage et ce que c'est que l'amour. Dans le sens où, toi, tu disais avant, bah pour moi l'amour c'est tu me ramènes des fleurs quoi, tu ouais. me ramènes des fleurs, tu me dis
c'est possible, tous probablement, les jours. C'est probablement qui a dit ça. Oui, c'est vrai.
On est d'accord. Hein, tu te reconnais derrière tout ça. Très bien. Tu peux nous en parler un petit peu justement de ta vision de l'amour qui a un peu évolué. Par son biais, mais même enfin, en tout cas qui a évolué d'une certaine manière et pourquoi c'est bien que ça évolue justement.
Oui, je pense qu'effectivement la vision n'est plus tout à fait la même. Alors, j'aime toujours qu'on m'offre des fleurs, ça n'a pas changé.
Certaines choses ne changeront jamais.
Ouais, il y a des choses qui ne changeront jamais, mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis c'est beaucoup quand tu surmontes des difficultés que tu te rends compte aussi que tu deviens plus fort, que tu es plus robuste. Je pense que ce qu'il a montré, ce qu'il a démontré jusqu'à présent, c'est le fait d'être toujours là, quoi. C'est, tu vois, même si des fois je suis archi relou, il y a des trucs où je n'évolue pas depuis 13 ans. Il y a des trucs où j'ai évolué.
Arrête, oui,
il y a des trucs où j'ai très peu évolué et malgré tout, tu vois, toujours la même patience, la même gentillesse, tout ça. Donc, je pense que Et du coup, à travers la maternité aussi, je pense que j'ai beaucoup appris ça, c'est que, en fait, on n'aime pas que ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'il faut aimer malgré les imperfections, il faut aimer malgré les difficultés, il faut aimer même si c'est hyper, hyper, hyper difficile de supporter la personne, le caractère, le trait, tout ce que tu veux, parce que si je transpose ça juste sur les enfants, bah, ils viennent, ils savent pas grand-chose, donc il faut leur apprendre des choses, il faut leur apprendre des codes, il faut les aider à se développer, parce qu'on fait pas que les apprendre et les nourrir comme ça, il faut qu'eux aussi ils développent leur potentiel. Mmh. Mais les enfants, ils sont ce qu'ils sont, et je pense qu'il faut apprendre à toujours les aimer quand ils ont pas des bonnes notes, à toujours les aimer si demain, quand ils sont plus grands, ils font des choses qui sont pas en ligne avec notre vision des choses. Ouais, maintenant, moi, je pense plus que l'amour a plus trait à ta capacité à faire fi des imperfections et à toujours être là pour l'autre ou les autres.
C'est super beau. C'est très, très beau. Parce que vraiment, c'est... Bah, encore une fois, quand t'es un peu contrôle freak ou des choses comme ça, t'as du mal aussi à lâcher l'idée de la perfection. C'est quand même très lié, tu vois. T'aimerais que les choses soient parfaites. T'aimerais, toi, être parfaite. Et c'est dur, parfois, de se dire que... tu aimeras des choses qui sont pas parfaites et que même le véritable amour passera finalement par l'amour de ces choses, de ces êtres dans leur imperfection.
Ouais, ouais, non, c'est clair.
Je te remercie beaucoup pour cette vision. Pour clôturer notre petite conversation, Binta, on va passer aux questions signatures. C'est des questions qui sont très rapides. Il faut répondre du tac au tac. Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou qu'on te dise avant de te marier?
Que c'est vraiment dur.
Fair enough, comme on dit. Ouais. Quel est le meilleur conseil que t'aies reçu?
D'accepter les choses telles qu'elles sont. Et parce que il y a des choses qui ne changeront jamais. Et je pense que c'est comme quand une fille elle dit voilà, ça je vais le changer chez lui, mais non, ça ne change pas. Ça ne change pas.
Et donc bah, là, surtout ce que tu veux vraiment changer souvent.
Ouais, en fait. Voilà. Et en fait, bon, je dis pas qu'il y avait que je voulais changer un truc, mais dans les choses de la vie, d'accepter que on ne peut pas tout changer. Et qu'il faut, il y a des choses qui ne changeront jamais, il faut les laisser comme ça.
Et c'est ok dans le sens où t'en mourras pas et c'est pas grave quoi. Encore une fois, faut lâcher prise. Ouais. Quel est le pire conseil que t'aies reçu ou celui que t'as trouvé parfaitement inadapté à ta personnalité, à ton mariage?
Bon, en fait, je sais pas parce qu'en vrai, j'ai pas reçu beaucoup de conseils. Je parle très 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 peu de mon mariage. Ce que je fais là avec toi, c'est la première fois que je le fais. Même avec mes copines, en fait, je parle pas trop de mon mariage.
C'est un choix? Ou c'est un trait de ta personnalité? C'est quelque chose que t'as vraiment réfléchi en disant « j'en parlerai pas » ou t'as même pas l'envie?
Je pense que j'en ai pas l'envie. Je pense que j'ai une très haute estime de lui et donc du coup, je sais que quand tu dis des choses à quelqu'un, la personne qui est proche de toi, elle va... Moi, je vois mes copines quand elles me racontent des trucs avec leur mec quand on était plus jeunes, mais après, le gars, t'as envie de le tuer, mais ta copine, elle est passée à autre chose. Mais toi, t'as toujours envie de le tuer. Et du coup, comme moi, je veux pas ça. Je veux que voilà, elle continue à l'aimer, à le considérer comme leur frère et tout. C'est vrai que je parle pas trop de mon mariage. Donc du coup, j'ai jamais vraiment reçu de conseils, quoi, en fait, à appliquer ou pas à appliquer.
Ok. Bah, je trouve que c'est, je sais pas, si c'est un conseil finalement que tu donnes, mais en tout cas, c'est une belle réflexion que tu apportes de savoir est-ce qu'il faut parler ou pas de son mariage et comment on en parle. Après, c'est aussi comment on en parle et à qui on en parle.
Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté de ma personnalité où effectivement, il y a plein de choses dont je ne parle pas, en fait.
D'accord. Et quelle est la chose, s'il y avait une chose à retenir, quelle est la chose que tu préfères dans le mariage, dans le fait d'être mariée ou dans le fait d'être l'épouse de Cérine?
La sécurité. La sécurité, vraiment, de se dire, franchement, ce gars, il est archi fiable. je l'embête beaucoup. Je lui dis, franchement... Ouais, je l'embête beaucoup, mais ouais, je pense que... Mais je te l'avais dit quand on avait préparé le podcast il y a longtemps... Enfin, pas préparé, mais quand on avait parlé
de ton podcast... On en a parlé la première fois.
Ouais, je te disais que ouais, je pense que lui, c'est mon ange gardien, quoi.
Waouh. On espère qu'il va écouter quand même, Cyril. Hein. Tout ça, c'est pour toi. Hein.
Est-ce qu'il va écouter jusqu'au bout? Parce que c'est au bout qu'il va écouter.
Et j'ai deux dernières questions. Ouais. Souvent, on nous dit, en tout cas, moi, dans ma culture peul, on nous dit Deogal comme Mounial. Donc, le Deogal, c'est le mariage. Le Mounial, comme beaucoup de personnes africaines, ouest-africaines savent, c'est ce qu'on appelle la patience. C'est mélange de patience, de résilience. C'est ce qu'on pourrait appeler le sabre, finalement, en arabe. Mais la réalité, c'est que souvent, on te dit ça avant de te marier. toi, t'as quand même aucune idée de ce que c'est.
Ouais.
On te le répète.
Ouais.
Tu comprends toujours pas. Ouais. Et moi, ma question, c'est par quoi ça passe pour toi, en fait, ce mounial, cette résilience-là? Est-ce que, en fait, une fois que vous êtes mariés, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que, avant d'être mariés, je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à imprimer.
Mmh. En fait, c'est marrant qu'on nous donne autant autour du donc en Wolof, on dit mouine.
Ouais.
Donc qui est vraiment un signe de patience au sein de ton mariage, parce qu'en fait je pense que cette qualité là, tu en as besoin dans le mariage, tu en as besoin dans la vie de tous les jours, tu en as besoin dans ta vie professionnelle, tu en as besoin avec tes amis, tu en as besoin avec tes frères et sœurs. Je pense que le mariage force plus ça, parce qu'en fait tous les jours, parce que je disais tard, tous les jours t'es confronté à un truc qui va t'énerver, et soit tu dis, à chaque fois que tu vois un truc qui t'énerve ou qui te déplaît, tu te mets en pétard, mais donc du coup t'es en pétard H24 tous les jours.
Quelle vie!
Quelle vie! Où tu te dis, en fait, est-ce que ça, c'est important? Est-ce que ça, dans un mois, sera de l'importance? Est-ce que ça, ça caractérise la personne que l'autre est? Non. Donc, en fait, juste, c'est pas grave. Règle le truc et avance. Donc, oui, il faut du mouine. Et même, des fois, quand t'en peux plus et que tu dis, j'en ai marre et tout, bah, en fait, oui, il faut juste, c'est comme tout, tu pleures un bon coup, tu te calmes, tu dors. Quand tu dors, en général, le lendemain, ça va mieux. voilà. Et le lendemain, tu te réveilles et tu vois une autre personne. Tu te dis, oh, c'est pas si grave. J'étais peut-être un petit peu fatiguée.
En fait, oui.
Ouais. Bon, après, voilà, je caricature, je rigole. Des fois, c'est grave et tout. Mais je pense que, en fait, ce qu'il y a à travers le mouille, en tout cas, moi, comment je le vis maintenant, c'est comment est-ce que toi, tu dépasses ce qui est difficile pour toi. Donc, c'est difficile pour toi dans le cadre du mariage, mais pour moi, c'est exactement le même exercice que quand, du coup, t'as un projet professionnel et que t'as un moment où c'est hyper, hyper dur, mais tu te dis, en fait, je suis obligée de passer par cette étape-là pour qu'après, ça soit un peu plus smooth, tu vois?
Oui.
Et je pense que ça a plus lié au développement personnel et à l'évolution de la personne que à de la soumission ou des trucs comme ça que tu pourrais entendre par ailleurs, en fait.
Ouais, mais enfin, t'as vraiment donné énormément de billes, d'outils de méditation, mais je vais m'arrêter sur un qui m'a pas mal interpellée. C'est qu'en fait, tu as commencé en disant, en fait, quelque part, le mouigne, la résilience, tu dois l'avoir partout. Mais effectivement, c'est dans ton mariage que ça prend une autre dimension. Ben, je reviens à l'injonction quelque part que Dieu nous fait de nous marier jeunes. Parce qu'en fait, le mariage, c'est une épreuve. Dans quel sens? Une épreuve dans le sens où c'est un passage obligé pour être meilleur. C'est vraiment, c'est comme on appelle ça, c'est le passage du feu, en fait, hein. Tu traverses parfois. Tu traverses et t'as chaud, hein. On est d'accord, hein. Tu traverses, t'as très très chaud et tu t'es dit quand même, il fait très chaud ici. J'étais mieux avant. Mais en fait, une fois que t'as traversé, ben, t'es un soldat. T'es un grand quelqu'un. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, toi et moi, on est
ouais,
en train de parler de choses très graves,
etc. pas de choses abusives, voilà. Pas de pervers narcissiques.
Voilà.
Vraiment,
on est dans un cadre sain. Quelque part, je me dis, ben, c'est peut-être aussi pour ça que Dieu nous demande de nous marier tôt. Parce qu'en fait, plus tôt tu te maries, plus tu passes par ces passages obligés, là, ce passage du feu qui est dur, mais qui fait que derrière, bah, t'es une meilleure personne, en fait. C'est un peu ça, l'idée.
Ouais. Et c'est clairement ça. C'est comment, du coup, tu, de toute façon, le but de la vie, je pense, à mon humble avis, c'est quand même d'être meilleur que, voilà, la version que tu étais les années précédentes. Donc, c'est pour, à 60 ans, à 80 ans, 90 ans, tu puisses regarder ta vie et dire, ah ouais, mais quel chemin j'ai fait? Quel chemin j'ai fait dans ma personne, dans ma vision des choses, le fait de remettre en cause des croyances, des choses comme ça. Mais le fait de remettre en cause des croyances, le fait d'évoluer sur des traits de personnalité, le fait d'être tolérant comme pas possible, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement tolérants, et même ceux-là, ils doivent progresser. Il y a ceux qui sont pas du tout tolérants, et eux, ils ont
une marge de progression incroyable, tout à fait.
Je pense que tout ça, et ben, c'est ça qu'on doit, c'est le chemin de la vie, en fait. C'est le chemin de la vie. Alors, le mariage, effectivement, c'est un moyen pour développer tout ça, parce que du coup, ça te fait forcément progresser, vu que tu es pas tout seul et que t'es obligé de bouger un petit peu de certaines positions. Mais oui, ça va dans le sens du développement de chacun, quoi.
Ok. Ben, merci beaucoup. J'ai une dernière question, qui est du coup liée un peu à l'essence même de ce podcast. Pourquoi en toi, s'aimer en Dieu, ça permet de s'aimer mieux?
Parce que je pense que probablement, quand tu aimes en Dieu, tu aimes avec plus de sincérité et plus de bienveillance. Parce que quand t'es humain, bah, quand t'es musulman, tu te dis, mais il y a des trucs que je fais pas bien, j'espère que Dieu va me pardonner. Vraiment, Dieu, pardonne-moi. J'espère qu'il y a au moins une prière que j'ai faite depuis que je suis née qui est bonne. S'il te plaît, si c'est pas le cas, pardonne-moi. Il y a une bonne intention dedans. Mmh. Et ben, si toi tu veux qu'on te pardonne, il faut que toi tu sois aussi en mesure de pardonner la personne avec laquelle tu es. Tu veux pas demander aux gens de te pardonner et toi ne pas le faire. Donc, je pense que si, voilà, tu as ta foi, tu aimes en Allah, et ben, il faut que tu acceptes aussi que tu aimes des choses qui ne sont pas parfaites, mais que tu dois pardonner de la même façon que toi tu demandes à ce qu'on te pardonne.
Mic drop. Là, on peut s'arrêter là.
Vas-y là, dans la vie, toujours toi.
Toujours. Ah bah, tu sais, on se ressemble beaucoup. J'ai besoin d'un Cyrine dans ma vie, sache-le. Mais je te remercie vraiment beaucoup, Minta,
pour le temps que tu m'as consacré. Merci à toi pour cette invitation. C'était cool. C'était cool. C'était très intéressant d'échanger sur ça. Je pense que c'est un très beau projet que tu as. C'est un très, très beau podcast. C'est une belle idée.
Ah, merci beaucoup. Merci infiniment. Bah, écoute, tu passeras un grand bonjour à Cyrine.
Ouais, je dirai, Inch'Allah.
Je lui dis merci d'avoir été là sans être là, mais il était quand même bien là.
grave.
Non, mais, et puis, on vous souhaite, que vous souhaitez d'autres, si ce n'est encore beaucoup, beaucoup d'années de mariage dans la paix, dans la joie. Amen. Et avec vraiment, Inch'Allah, toute la baraka, qu'Allah soit à pourra bien vous donner à vous et à vos enfants, Inch'Allah.
Amen. Merci beaucoup, Madina. Merci pour l'invitation.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.